Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, chers confrères, chers ordinants, et bien chers frères, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on considère quelle est la pensée de la Sainte Église sur le sacerdoce, que ce soit dans l'Écriture sainte, spécialement dans Saint Paul, ou dans la tradition qui est comme condensée dans le pontifical romain, on constate combien c'est vrai que Monseigneur Lefebvre, notre saint fondateur, Monseigneur Lefebvre, a été le serviteur fidelis et prudens, fidèle et prudent, et on pourrait bien ajouter fort, vaillant, qui n'a fait autre chose que nous transmettre avec fidélité ce qu'il avait reçu de la Sainte Église, c'est-à-dire le vrai sacerdoce catholique. Le vrai sacerdoce catholique. Et cela est vrai à tel point que pour nous, il suffit de vivre ce qu'il nous a transmis, vivre ce que nous avons reçu. Et plus précisément, vivre ce que nous sommes. La sainteté sacerdotale, c'est tout simplement de vivre ce que nous sommes. Et je voudrais donc vous parler de cet enseignement que nous avons reçu, de ces sacerdoces, évidemment non d'une façon exhaustive, mais dans ces éléments essentiels, ce qui me semble, ces éléments essentiels. Et tout d'abord, le prêtre, le sacerdoce, est ordonné au sacrifice, au Saint-Sacrifice de la Messe. Le prêtre, il est avant tout l'homme du culte de Dieu, l'homme consacré et établi afin de rendre au vrai seul Dieu le vrai culte. Il est établi aussi comme médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais tout spécialement pour offrir des prières et des sacrifices. Il est surtout et essentiellement l'homme du Saint-Sacrifice. Il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de prêtre sans le Saint-Sacrifice de la Messe. L'apôtre saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, le dit d'une façon très claire. Car tout pontife pris d'entre les hommes est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices, munere sacrificia, pour les péchés. Il est établi afin qu'il offre des dons et des sacrifices. Et après avoir montré que le prêtre doit compatir aux pécheurs, c'est-à-dire qu'il doit avoir des sentiments, des compassions et des miséricordes vis-à-vis des pécheurs, car lui-même est revêtu de faiblesse, l'apôtre insiste. C'est pour cela qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et il m'est simple que nous réalisons cela d'une triple façon. Cela, ça veut dire, tout d'abord, que nous devons faire de la Sainte Messe le centre, le cœur de notre vie spirituelle, de notre vie sacerdotale, de notre vie. Et que c'est de la messe, de la Sainte Messe et de la célébration de la Sainte Messe que nous devons puisser tirer toutes les grâces des sanctifications personnelles et des sanctifications des fidèles. C'est-à-dire aussi le principal moyen d'apostolat pour nous, c'est la Sainte Messe. C'est bien ça qui nous a transmis Mgr Lefebvre. Ensuite, il faut que nous accomplissions ces tâches des médiateurs par la prière. Il y a une médiation du prêtre par la prière, aussi bien publique que privée. Bien sûr, la liturgie, c'est la éclair, mais aussi la vie des prières personnelles, privées. Il est ordonné à une médiation entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Autrement dit, c'est une prière des demandes, d'intercession, des médiations, des réparations, d'expiations, surtout des propitiations. Notre Seigneur lui-même a dit aux apôtres, dans l'évangile de Saint Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et notre Seigneur ajoute, et afin que tous ceux que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Donc il y a quand même un office d'intermédiaire par la prière, puissant, office, fonction du prêtre, semblable à celle de Moïse, par exemple, dans l'Ancien Testament, quand il a obtenu le pardon du peuple par sa prière, ou quand il a obtenu la victoire dans la bataille, dans la messure, où il était en prière pour le peuple. Pouvoir semblable à celui d'Élie, d'ouvrir ou de fermer le ciel, les grâces du ciel. Et c'est notre Seigneur lui-même qui nous a donné l'exemple. Mgr Lefebvre nous parlait de notre Seigneur comme les grands priants. C'est le modèle de prière sacerdotale par excellence. Et la prière sacerdotale par excellence, c'est la Sainte Messe, encore. Donc c'est bien l'exemple que nous devons suivre de notre Seigneur, cette médiation, afin de rendre Dieu propice, pas seulement pour l'Église, pour les chrétiens, pour le corps mystique, mais pour le monde, comme le signale Saint Jean Chrysostome. On est constitué afin de prier pour tout le monde. Et donc c'est la Sainte Messe, c'est le sacrifice de la Messe qui doit être comme le modèle et la forme de la prière sacerdotale. Modèle et forme de la prière sacerdotale. Et nous réalisons dans ces premiers aspects essentiels aussi, en nous conformant à notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime. Prêtre et victime. Il y a donc une identification qui est requise, une conformité croissante dans notre vie sacerdotale. Imitamini quod tractatis, c'est le pontifical romain. Imitez ce que vous traitez. Imitez donc notre Seigneur dans la Sainte Messe. Or, notre Seigneur dans la Sainte Messe, il est le prêtre. Il est l'oblation, il est le sacrifice, il est la victime. Donc il y a une double imitation. Nous devons chercher chaque jour à nous rassembler davantage à notre Seigneur prêtre donc dans sa sainteté, dans la recherche qu'il a fait tout le temps de la gloire de Dieu, tout était ordonné à la gloire du Père, et aussi dans son souci du salut des âmes, dans sa miséricorde. Sainteté, gloire de Dieu, miséricorde. Mais nous devons aussi nous conformer à notre Seigneur, victime, oblation, sacrifice. Or, le sacrifice implique toujours, et surtout l'Holocauste, une destruction. Il y a forcément une destruction, une mort, mystiquement parlant. Et c'est surtout par la messe, et c'est surtout à l'exemple de la messe, et là que nous avons puissé cet esprit qui est le vrai esprit sacerdotal. Et cela, traduit en plus simple, ça veut dire qu'il faut accepter les souffrances, joyeusement, volontiers. Les adversités, les difficultés, les incompréhensions, les misères, enfin, la liste des malheurs de l'homme est très longue. Mais c'est donc assumer ça, l'accepter avec résignation, le souffrir, la croix, c'est la croix. On ne peut pas éviter de sentir la croix comme une croix, sinon ce serait plus une croix. Mais il s'agit de l'unir, donc, à notre Seigneur, de l'offrir comme lui, avec lui, pour tous les biens dont nous avons besoin, et pour le bien des âmes, et pour le bien de la Sainte Église. Je pense que c'est là le sommet de la vie sacerdotale. C'est la fleur, ou le fruit plutôt. Le deuxième élément essentiel au sacerdoce, c'est la prédication de la vérité. Prédication de la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est la vérité même. Je suis la vérité. Et il est venu en ce monde afin de rendre témoignage de la vérité, comme il l'a dit devant Caïphas. Et la Sainte Église catholique, elle est la colonne et le soutien de la vérité. Il s'ensuit donc que c'est une tâche essentielle du prêtre que de prêcher la vérité. Le prêtre doit donc s'y préparer. Il doit être, ou il doit se rendre capable d'enseigner la vérité. Et il doit se consacrer à la prédication. Pour saint Paul, être apôtre, c'est essentiellement prêcher, enseigner, c'est être un docteur, être un messager, un héros qui proclame toujours la parole de Dieu, ce sont ses propres mots, la parole de Dieu, la parole des vérités, les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole, les paroles de la foi, la sainte doctrine. Et c'est bien l'exemple qui nous a donné notre Seigneur. Sa vie publique, c'est une vie de prédication, d'enseignement, de révélation de la vérité aux âmes. Et c'est même son commandement, aller et enseigner toutes les créatures, c'est-à-dire tous les hommes, tous les hommes. Et cette prédication doit avoir, premièrement, doit être d'abord fidèle. Ce qui est requis, donc, dans l'exercice de ses devoirs, c'est d'avoir la fidélité. Ce qu'on demande au ministre, c'est qu'il soit fidèle. Un ministre doit être fidèle à son ministère, à ce qu'on lui demande de transmettre. Et être fidèle, ça veut dire d'abord prêcher l'intégrité de la doctrine. Et ensuite, prêcher, enseigner cette doctrine dans toute sa pureté. Donc, vous voyez, toute la foi, rien que la foi. On ne peut rien ajouter, rien rétrancher. Et cette prédication intégrale, donc, et pure, doit être nécessairement celle de la tradition. Il doit prêcher selon l'enseignement de la tradition. Selon la prédication traditionnelle, qui est le critère et le norme de la foi, le principal et premier des critères de la foi. C'est ainsi que saint Paul le donne. Nous ne sommes pas comme beaucoup qui frélatent, qui adultèrent la parole de Dieu. Mais c'est en toute pureté, comme de la part de Dieu, devant Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Donc, il est fier, justement, de ne pas adultérer la foi. Et il dit aussi à Timothée, « Aie comme modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et la charité du Christ. » Dans la foi et la charité du Christ. Donc l'enseignement pur, parfait. Et il ajoute, « Garde le précieux dépôt de la foi par le Saint-Esprit qui habite en nous, dont le prêtre y reçoit le Saint-Esprit, spécialement dans le sacerdoce, afin de garder cet enseignement, cette tradition, et afin de l'enseigner, de le prêcher. » Et c'est bien là les critères de catholicité. Rappelez-vous les paroles de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Si quelqu'un, fût-ce moi-même, ou un ange du ciel, donc si n'importe qui, soit un prêtre, un évêque, un cardinal, un pape, vous annonce un évangile différent à celui que nous vous avons annoncé, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le critère de la foi catholique et de la prédication du prêtre est la tradition, la conformité avec la tradition de l'Église catholique. Et nous en faisons toujours appel à cela. Et c'est cela qui fait notre force. Nous ne faisons pas un magistère au-dessus du magistère du pape. Nous faisons appel au magistère des papes et à l'enseignement constant, à la tradition de l'Église catholique, qui est au-dessus de nous et qui est au-dessus du pape. Et ensuite, le prêtre doit aussi prêcher et enseigner avec autorité, avec force, qualité essentielle de la prédication. Ça ne veut pas dire, évidemment, violence ni agressivité. Ça veut dire force, être fort. Saint Thomas dit bien que le prêtre doit prêcher, enseigner avec autorité, parce qu'il est l'instrument et le ministre de Dieu. Et donc, il a l'autorité, il est revêtu de l'autorité de Dieu dans cet office. Et alors, il doit non seulement enseigner la doctrine, il doit non seulement exhorter les fidèles, les exhorter au bien, à la pratique du bien, mais il doit aussi corriger les fautes et les déviations, que ce soit en dénonçant le mal ou en blâmant les fautifs. Et si c'est une question de foi, une question doctrinale, il est obligé de faire une réfutation solide. Et saint Paul dit capable de confondre, de convaincre ou confondre les contradicteurs, de les convaincre ou de les faire taire, les contradicteurs. Voyez, il dit à Tite, dis ces choses, exhorte et reprend avec toute ton autorité. Dis ces choses, exhorte et reprend avec toute ton autorité. Et il lui dit aussi que le prêtre doit être fortement attaché aux paroles authentiques telles qu'elles ont été enseignées, afin d'être capable d'enseigner la saine doctrine et de confondre les contradicteurs de la foi. Les paroles de saint Paul à Tite. Donc il est évident, il est inhérent à cette obligation de prêcher que de défendre les fidèles de toute contamination doctrinale. Les prêtres doivent lutter contre les erreurs et contre le faux docteur, contre les hérésies et contre les hérétiques. Car il est gardien des vérités des foi, première chose, mais il est aussi gardien du bien des âmes, dont le premier c'est justement cette vérité en eux, la foi catholique. Et saint Paul est très formel à ce sujet. Rappelez-vous, je t'assure, dit-il à Timothée, devant Dieu et devant notre Seigneur Jésus-Christ, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, exhorte, convainc, reprend, en toute longanimité et doctrine. Ça veut pas dire avec patience. C'est bien sûr qu'il faut de la patience vis-à-vis des fidèles ou des fautifs pour les corriger. Mais il ne parle pas de ça. Il parle qu'il faut le faire avec patience parce que c'est dur. C'est une souffrance. C'est un combat. Et il annonce, c'est son testament spirituel, c'est le testament spirituel de saint Paul, la dernière des choses qu'il écrit. Il rappelle qu'il y aura des temps où les hommes se détourneront, les catholiques même, se détourneront de la vérité et tourneront leurs oreilles vers des fables. Et c'est là donc qu'il doit être vigilant, endure la souffrance, remplis ton ministère, fais œuvre d'évangéliste. Donc c'est bien un devoir que cette défense est de la foi et des âmes. Et donc on doit dénoncer les erreurs, les hérésies, mais aussi les fauteurs d'erreurs et d'hérésies. Et cela, évidemment, suppose de la force. Dans la mesure où le combat, la crise dure, c'est surtout notre patience et notre force qui sont mises à l'épreuve. C'est pour ça que saint Paul dit à Timothée, « Et toi, homme de Dieu, combats le bon combat de la foi. Combats le beau combat de la foi. » C'est un beau combat pour saint Paul, ce n'est pas un mauvais combat. Hein. Un beau combat. Mais alors il faut se battre, il faut lutter. Et pour cela, il faut que nous soyons forts dans la foi. Et saint Paul rappelle à Timothée que par l'imposition des mains, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, c'est-à-dire de crainte, mais un esprit de force, de charité et de sagesse. Mais il dit d'abord de force. Le troisième élément essentiel, c'est que le sacerdoce est tout ordonné à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ordonné à faire régner notre Seigneur. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est le Christ Jésus. Encore des paroles de saint Paul. Autrement dit, on ne peut pas chercher à bâtir cet édifice mystique qui est l'Église catholique en dehors du seul fondement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui bâtit sur un autre fondement, il bâtit un édifice purement humain. Et comme nous le voyons aujourd'hui, humaniste. Donc tout d'abord, le prêtre, il doit tout fonder dans son sacerdoce, dans sa vie, dans son apostolat, sur notre Seigneur Jésus-Christ comme sur la base. Mais en même temps, notre Seigneur doit être la fin de tous ses efforts. Car nous sommes constitués afin de omnia instaurare in Cristo. Tout restaurer dans le Christ. Tout. Tout restaurer, tout instaurer, tout réunir, comme dit les Grecs, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la fin de l'apostolat, la fin du sacerdoce, la fin de la Sainte Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de tout fonder sur notre Seigneur Jésus-Christ, tout inspiré de notre Seigneur. Le prêtre, il ne peut pas savoir d'autres désirs, d'autres volontés que de consacrer sa vie, tous ses efforts, tout son travail, à faire que notre Seigneur Jésus-Christ soit tout et en tous. Je voulais dire un petit peu à la façon de Saint Augustin. Notre Seigneur, il faut qu'il soit tout, en tout et en tous. Mais il faut que soit tout notre Seigneur. Tout notre Seigneur. Sa doctrine, son sacerdoce, sa grâce, son sacrifice, sa royauté, son Église, sa très sainte mère, tout notre Seigneur. Ensuite, il faut que ce soit notre Seigneur pour tous. Pour tous. Justement, il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions nous sauver. Et donc, c'est en même temps un don et c'est en même temps une exigence. Non, notre Seigneur pour tous, pas seulement pour les catholiques et pour les autres qu'ils pratiquent bien leur culte. Eh bien non, c'est notre Seigneur pour tous. Et ensuite, il faut tout ordonner à notre Seigneur, tout pour notre Seigneur, tout pour notre Seigneur. Saint Paul, il est clair, tout est à vous, vous êtes au Christ, le Christ à Dieu. Voilà la volonté de Dieu, du Père. C'est que tout soit ramené à Dieu, à lui-même, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, prêtres, nous ne faisons que coopérer à tout ramener vers Dieu par le Christ, à tout réunir dans le Christ. Et c'est pour cela que Mgr Lefebvre résumait souvent notre position dans ses paroles de Saint Paul, « O porte tilum regnare », il faut qu'il règne. Oui, il faut qu'il règne. Il faut que notre Seigneur règne. Et le sacerdoce, c'est une œuvre de christianisation. Il est office totalement ordonné à christianiser et à établir le règne de notre Seigneur dans toute son étendue. Aussi bien sur les individus que sur les institutions et les sociétés. Aussi bien l'un que l'autre. Évidemment, in quantum possumus, dans la mesure où nous les pouvons aujourd'hui. Mais donc nous sommes pour cette royauté, que ce soit vis-à-vis des individus, vis-à-vis des sociétés. Et nous travaillons pour cela. Et ça, c'est pourquoi nous sommes pour la confessionnalité d'État, c'est une conséquence. Nous sommes pour la royauté sociale de notre Seigneur, et donc pour la confessionnalité d'État. Et ce n'est pas une question simplement politique. Ce n'est pas une question de possibilisme. Est-il possible ou pas possible? Enfin, c'est une question de foi. O porte-t-il un regnare? Déjà, Saint Grégoire le Grand le disait. Il y a des hérétiques qui nient la divinité de notre Seigneur, d'autres qui nient l'humanité de notre Seigneur, et d'autres hérétiques qui nient la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hérétiques. Alors vous voyez, chers frères, cette simple description du sacerdoce, dans ses éléments essentiels, met en évidence combien Mgr Lefebvre a été fidèle à nous transmettre le vrai sacerdoce catholique. Et cela met en évidence aussi la dérive à laquelle nous assistons dans les autorités ecclésiastiques de l'Église. Car il y a une radicale opposition par rapport à tout ce que je viens de dire. Et c'est là, nous le constatons même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Prenez par exemple le voyage du Saint-Père aux États-Unis. C'est un exemple, pour ainsi dire, typique. Voyez, il y a toujours sous-jacent, c'est sous-jacent, évidemment. Et donc cela s'applique avec des degrés différents, selon les personnes et selon les circonstances. Nous ne disons qu'ils ne prêchent que l'erreur, qu'ils prêchent toujours l'erreur. Nous ne disons pas cela. Mais si on dégage les principes sous-jacents, eh bien nous trouvons justement cet esprit naturaliste, oui, humaniste, qui n'est pas proprement parlé surnaturel, mais plutôt humain, vie humaine. Où l'homme est le centre un peu de tout. C'est une prédication qui favorise la liberté des consciences et la liberté religieuse. C'est justement là le contraire à la christianisation. Tout ramener au Christ. Eh bien non. Tout est indépendant. L'homme est autonome. Que ce soit dans sa conscience ou que ce soit dans sa vie sociale, dans la société. Vous voyez, ils font une œuvre de déchristianisation. Diamétralement opposée à ces règnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent ou non. Pourquoi ? Parce qu'ils adhèrent à des principes libéraux modernistes. Comme l'Église l'a dénoncé depuis deux siècles. Ils n'ont qu'à lire les encycliques des papes précédents. Ensuite, on ne prêche plus la vérité. On est en quête de la vérité. Et alors, le principal moyen d'apostolat, c'est les dialogues. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vocation du prêtre qui doit prêcher et prêcher la vérité, enseigner, et selon la tradition. Et nous voyons comment ce qui est vraiment, ce qui était, ce qui est la chair de la vérité et de sagesse, elle devient, dans les meilleurs des cas, une chair de confusion. Et dans les pires des cas, une chair d'erreur. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'est à cela que nous assistons. C'est à cela. Le sacrifice de la messe, il est absolument diminué, estompé, obscurci, au point qu'il devient même un obstacle à la foi, à la grâce de notre Seigneur. Au vrai esprit catholique et chrétien qui est fondé sur la croix, sur le sacrifice de la croix, c'est terrible. L'Écriture dit, parlant des enfants d'Élie, que leur péché était très grave, car ils éloignaient les hommes du sacrifice. Leur péché était grave parce qu'ils ont été condamnés par Dieu. Ils sont morts à cause de cela, de leur péché. Et c'est là, en tout cas, montre l'importance et la nécessité des sacres. Car si nous avons fait cet acte de sacre, c'est justement pour la survie du sacerdoce catholique. Donc aujourd'hui, nous revendiquons les sacres. Nous les revendiquons. Nous revendiquons cet acte. Mais non pas comme s'il était une sorte de rébellion contre l'autorité ou contre l'autorité du pape. C'est-à-dire, nous ne revendiquons pas cet acte dans son apparente désobéissance, mais par contre, nous le revendiquons dans sa résistance réelle, dans la mesure où nous avons posé cet acte simplement afin de sauvegarder le sacerdoce catholique. Et qui dit sauvegarder les sacerdoces, dit sauvegarder la foi catholique et l'Église catholique. Et donc, nous revendiquons aussi la figure de son Excellence Monseigneur Marcel Lefebvre. C'est dans ces contextes que sa figure émerge. C'est dans ces contextes que sa figure émerge avec la taille d'un géant, car Monseigneur a été quand même le principal sauveur de la tradition. Et souvent on nous dit, vous êtes lefebvriste. Et nous disons toujours, nous on n'est pas lefebvriste, on est catholique. Mais je tiens à dire quand même que nous sommes des disciples de Monseigneur Lefebvre. Et nous en sommes très fiers, très fiers. Car il ne faut pas toujours rentrer dans la logique et la sémantique des ennemis. Bien sûr, lefebvriste, c'est méprisant. Ça veut dire que nous serions catholiques parce que lefebvriste. Eh bien non, c'est parce que nous sommes catholiques et que Mgr Lefebvre était très catholique que nous sommes des disciples de Mgr Lefebvre. Et à l'inverse, aujourd'hui, les gens croient parce qu'ils obéissent. Ils n'obéissent pas parce qu'ils croient. Ce n'est pas d'abord la foi surnaturelle, c'est d'abord l'obéissance. Vous êtes catholique si vous obéissez, non si vous croyez. Or l'obéissance est une conséquence de la foi. Et donc si nous avons adhéré à cet homme, sauveur de la tradition, c'est parce qu'il était vraiment catholique. Mais ceci dit, cette précision dite, eh bien, nous revendiquons sa figure. Et nous sommes très heureux d'avoir partagé ces combats, et nous serions très heureux encore de partager, de continuer ces combats, et de partager les souffrances, les peines, les adversités, et si vous voulez, les déclarations et même les condamnations dont il a souffert. Nous n'avons pas honte de l'Évangile de notre Seigneur. Nous n'avons pas honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de la foi catholique de toujours. Nous n'avons pas honte de l'Église catholique de toujours. Et par conséquent, nous ne rougissons pas de Mgr Lefebvre. Et cela m'amène à vous parler rapidement de la situation actuelle. Vous avez peut-être entendu dire, par-ci par-là, que nous avions reçu un ultimatum de la part de Rome, de la part du cardinal Castrillon. Moi, je pense que c'est trop dire, un ultimatum. C'est trop dire. Il y a évidemment une volonté de nous émouvoir, de nous effrayer un peu, de nous mettre un peu de pression, nous presser dans l'essence d'un accord purement pratique qui a été toujours la proposition de son éminence. Alors évidemment, vous connaissez déjà notre pensée, cette voie est une voie morte. Et plus que cela, pour nous, c'est la voie de la mort. Et donc, il n'est pas question de la suivre. Nous ne pouvons pas nous engager à trahir la confession publique de la foi. Il n'est pas question. C'est impossible. Et nous ne pouvons pas, voulant donc garder la tradition et défier cet édifice, ce bâtiment mystique qui est l'Église, nous embrocher dans une entreprise de démolition. Impossible. Vous réfléchirez sur tout ce que nous avons déjà dit, c'est impossible. Alors évidemment, notre réponse va plutôt dans le sens de ce que nous avons déjà demandé, ce que nous demandons depuis longtemps. Ce sont les étapes avec les préalables et qui aboutiraient éventuellement à une discussion, à une confrontation théologique, plus que théologique encore doctrinale, plus que doctrinale encore du magistère, et plus que du magistère de foi. Mais c'est la seule voie que nous sommes prêts à accepter, c'est la seule voie que nous demandons. Et évidemment, la réponse de la fraternité va dans ce sens-là, et il ira dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui nous dépare le proche avenir? Moi, je ne sais pas. Je pense que le plus probablement, ceci aboutira à une pause, stagnation de nos contacts avec Rome. Moins probablement, sinon, à une déclaration nouvelle contre nous. Et moins probable encore, ça aboutira peut-être au retrait du décret des excommunications et ensuite à une discussion sur la foi catholique. Discussion pour ainsi dire, évidemment. Voilà, je voulais ces données dans l'ordre décroissant, d'après moi. C'est une conjecture que je fais moi-même à mes frais. Pour terminer, je vous rappelle, chers ordinants et chers confrères, les paroles de notre Seigneur, avant de monter au ciel, qui me semblent contenir un passage beau, si beau, qui contient comme la quintessence de l'Évangile. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est le Christ roi universel qui parle, le maître de l'histoire et de l'Église. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, allez donc, et enseignez tous les hommes, toutes les nations. C'est bien le Christ prêtre, docteur, docteur de vérité, c'est le Christ vérité qui nous l'a dit. Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien le Christ vie. C'est le Christ prêtre qui communique la grâce, qui nous donne cet ordre, de les convertir et ensuite leur donner la grâce. Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai commandé, absolument tout. Et c'est bien le Christ, donc, législateur, qui établit l'ordre moral même, qui nous demande d'enseigner cela. Ceux que croiront et se baptiseront se sauveront. Et ceux qui croiront pas, ils se condamneront. Ils seront condamnés. C'est le Christ juge et rémunérateur qui nous l'annonce. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. C'est le Christ Sauveur, Rédempteur, Christ tête de l'Église, c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui nous annonce son secours dans sa toute-puissance et dans sa miséricorde. Alors, nous n'avons rien à craindre. Il a dit lui-même aux apôtres, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. » Et notre Seigneur, il ne parle pas seulement du monde mondain. Le contexte montre bien que dans « J'ai vaincu le monde », notre Seigneur inclut les autorités ecclésiastiques de l'époque, puisqu'il parlait peu avant des pharisiens et des sadducéens. Autrement dit, notre Seigneur a vaincu tous ses ennemis. Et nous, nous sommes au service de ces six puissants seigneurs, rois des rois, seigneurs des seigneurs. Alors nous n'avons rien à craindre et la providence va nous donner pour l'avenir ce qui nous convient, comme toujours. Parfois c'est la souffrance, l'épreuve, parfois c'est l'accalmie, c'est une petite bataille gagnée. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas où l'histoire, le monde va aboutir, l'Église elle-même et le monde. À quoi Dieu nous prépare-t-il? Nous ne le savons pas. Mais que ce soit donc dans la souffrance, dans le combat, dans la joie, dans la victoire, nous sommes toujours également assurés. Car notre espérance est bien fondée en Dieu, dans sa providence et dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous prions spécialement aussi aujourd'hui notre Sainte Vierge Marie et tout particulièrement l'Immaculée, la toute pure, car c'est bien elle qui est le chemin pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ, chemin assuré, pour aller au Christ, pour vivre la vie du Christ, mais c'est aussi l'Immaculée qui a reçu les promesses de la victoire. Ipsa conteret. Elle t'écrasera la tête. La victoire a commencé déjà par Marie. La victoire finale viendra aussi par l'entremise de l'Immaculée, par le triomphe du cœur immaculé et douloureux de Marie. Alors, ayons cette confiance et soyons courageux dans notre sacerdoce, dans notre ministère et dans l'accomplissement chaque jour mieux des exigences de notre sacerdoce catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.